Frères et sœurs, au nom de notre Seigneur Jésus, et j'aimerais vous inviter à ouvrir la parole dans l'évangile de Jean, au chapitre 1. Aujourd'hui, nous allons parler du disciple de Jésus-Christ, ce qu'est être disciple de Jésus. Et avant de lire ce passage de l'évangile de Jean, chapitre 1, à partir du verset 29, juste vous citer deux, trois versets où le Seigneur Jésus dit à ses disciples, donc, et nous allons définir ce terme. Dans Jean, chapitre 8, verset 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Jean, chapitre 13, verset 35, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jean, chapitre 15, verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Voilà, le Seigneur insiste sur le fait d'être vraiment ses disciples. Et donc, la question pour nous ce matin et que j'aimerais vous poser, c'est déjà cela, êtes-vous un disciple de Jésus? Et lorsque Jésus, il dit... Vous êtes vraiment mes disciples, ça sous-entend qu'il y a certaines personnes qui se disent disciples et qui ne le sont pas. Et donc, ça pose cette question de fond, suis-je réellement un disciple de Jésus? Le Seigneur parle du disciple, en disant cela, il affirme qu'il est un maître, un enseignant qui a des choses à transmettre. Il veut dire aussi que ceux qui veulent le suivre doivent se plier à ses exigences en tant que maître. Et puis, comme je l'ai dit, il veut dire aussi que ce ne sont pas tous ceux qui se disent disciples qui le sont effectivement, mais seulement ceux qui demeurent dans sa parole, qui aiment son prochain et qui portent du fruit d'après les versets que je vous ai cités. Dans les évangiles, nous voyons que certains se disaient être disciples de Moïse. Nous sommes disciples de Moïse. D'autres étaient disciples de Jean-Baptiste. Et Jésus, lui, il va avoir aussi ses disciples. On va voir que ceux qui sont devenus ses disciples le sont devenus même avant d'avoir entendu les paroles de Jésus, seulement sur la base de ce qu'ils ont entendu de qui il était. Parce qu'il est l'agneau de Dieu, certains ont décidé de le suivre. Parce qu'ils ont entendu que c'est lui le Messie. Donc, comme on a lu, les Juifs attendaient ce Messie parce que Dieu avait fait promis à David qu'il y aura toujours un descendant sur le trône et il y aura un qui va demeurer éternellement. Ils attendaient ce Messie. Et donc, quand on va leur dire, oui, voici le Messie, ils vont suivre Jésus. Et après... ils vont entendre les paroles de Jésus, l'enseignement que Jésus va donner. Donc, comme Pierre, Jacques, Jean et les autres, comme eux qui sont devenus disciples de Jésus, nous voulons être aussi ses disciples. Et... nous allons voir comment ces personnes sont devenues disciples de Jésus Et donc, en cela, comment, pour vous qui ne pouvez pas affirmer que vous êtes disciple de Jésus, comment le devenir? Et nous allons voir aussi, pour nous qui sommes disciples de Jésus, en tout cas qui disons l'être, ce que Jésus attend de nous. Alors, lisons ce texte de Jean, l'évangile de Jean. Nous lisons à partir du verset 29. Le lendemain, il, en parlant de Jean-Baptiste, vit Jésus venant à lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu ». Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui signifie « maître ». « Où demeures-tu ? » « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie ». Ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Cephas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, et il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu ? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois ? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Amen. Voilà, donc dans ce passage, nous voyons que les premiers disciples de Jésus le sont devenus parce qu'ils ont entendu un témoignage concernant Jésus et on fait une rencontre personnelle avec lui. André et Jean donc, ont suivi Jésus après avoir entendu de la bouche de Jean-Baptiste que Jésus est l'agneau de Dieu. Et donc ils ont décidé de quitter Jean-Baptiste pour suivre le Seigneur. Alors, le texte dit clairement que l'un des deux disciples de Jean-Baptiste était André, le verset 40, et le deuxième, il n'est pas mentionné, mais les spécialistes pensent que c'est Jean, celui qui a écrit l'évangile de Jean, le fils de Zébédée, puisque dans son évangile, il ne se nomme pas, sauf que lorsqu'il dit celui que Jésus aimait. Alors, donc, peut-être Jean aussi. En tout cas, ils ont quitté leur maître Jean-Baptiste pour suivre Jésus, parce qu'ils ont su que Jésus, c'est lui l'agneau de Dieu. Pierre, c'était Simon son nom, et le Seigneur l'a dit, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Il est devenu disciple de Jésus après avoir entendu son frère André lui dire, nous avons trouvé le Messie. Et donc, André va le conduire vers Jésus et il va faire cette rencontre. Et le Seigneur va lui dire, voilà, tu seras appelé Pierre. Philippe, quant à lui, il a rencontré le Seigneur Jésus lorsque le Seigneur lui dit, suis-moi. Et peut-être que Philippe avait entendu aussi le témoignage de Pierre et d'André, puisqu'ils étaient de la même ville, le texte nous dit. Et donc, on peut imaginer André et Jean qui rencontraient Philippe, lui parlaient de Jésus, et lorsque Jésus rencontre Philippe, il lui dit, suis-moi, ben, Philippe suit le Seigneur. Et Nathanaël, là aussi, a entendu Philippe qui lui a dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Et donc, Nathanaël a entendu ce témoignage, lui qui attendait aussi le Messie. Mais pour lui, est-ce que de Nazareth, il peut venir quelque chose de bon? Viens et vois. Et cette rencontre personnelle de Nathanaël avec le Seigneur Jésus va être radical et il va confesser que Jésus est son rabbi, son maître, que Jésus dit tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Et donc ces hommes ont cru que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, celui de qui Moïse a parlé dans ses écrits, parce que Moïse avait dit que le Seigneur va leur susciter un prophète comme lui, il dit écoutez-le. Et donc Jésus, c'est lui, donc ce Messie qui était attendu, Jésus le Fils de Dieu, le roi d'Israël, Jésus le Rabbi. Et donc ils vont devenir ainsi disciples de Jésus, puisqu'ils l'ont reconnu pour ce qu'il est, et ils vont donc le suivre. Et donc c'est cela que Dieu demande encore aujourd'hui, pour devenir disciple de Jésus. Le reconnaître pour ce qu'il est, le Messie, celui que Dieu avait promis d'envoyer et qu'il a envoyé, qui a payé la rançon de beaucoup pour ôter le péché du monde. Reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu, ce qui signifie que Jésus est Dieu, il est de même essence que Dieu. Il est le prophète dont a parlé Moïse et qu'il faut écouter. En tout cas, lorsque Pierre il prêche dans les Actes des Apôtres, il cite ces passages et il leur dit aux Juifs, voilà, il était écrit ceci, Jésus c'est lui ce prophète. Et donc Jésus, il est le maître, le rabbi, celui qui peut nous enseigner et celui qu'on doit écouter. Pour devenir disciple de Jésus, il faut aussi reconnaître son état devant Dieu, reconnaître qu'on est pécheur. Et c'est parce que André a entendu qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est parce qu'André savait qu'il était pécheur. Il savait que Jean-Baptiste lui-même disait qu'il n'était pas le Christ. Et parce qu'il a reconnu qu'il était pécheur, que c'est Jésus qui pouvait ôter ses péchés, il a suivi Jésus. Et si on ne reconnaît pas qu'on est pécheur, si on ne reconnaît pas son état devant Dieu, que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, on ne peut pas être sauvé. Parce qu'il faut reconnaître son état, que c'est pour cela que Jésus-Christ est venu et qu'il a donné sa vie, C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pour devenir disciple de Jésus, il faut donc faire cette rencontre personnelle avec lui. Dans Actes chapitre 2, verset 38, lorsque Pierre, après avoir prêché, les personnes ont dit « Mais que ferions-nous ? » Et Pierre lui dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Puisque si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on ne lui appartient pas. Et donc, repentez-vous. Ça montre qu'on reconnaît son état, on demande pardon à Dieu, on s'humilie devant Dieu. Et on se détourne de ses mauvaises voies, on se détourne du péché. Et on accepte Jésus-Christ dans sa vie comme Sauveur et Seigneur. Et la suite du texte nous dit que ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, donc ce que Pierre il a annoncé, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Le nombre de disciples augmenta. Tant qu'on n'a pas fait tout cela, on n'est pas encore disciple de Jésus. Et donc c'est pour cela que je vous pose la question, êtes-vous un disciple de Jésus-Christ ? Est-ce que vous avez accepté Jésus-Christ dans votre cœur comme Sauveur et Seigneur ? Est-ce que vous reconnaissez Jésus-Christ pour ce qu'il est ? Est-ce que vous vous reconnaissez vous-même pour ce que vous êtes devant Dieu ? Et est-ce que vous vous humiliez devant lui, vous vous êtes humilié devant lui et vous vous êtes soumis à son autorité ? Dans Romains chapitre 10, verset 9, l'apôtre Paul dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ces cinq personnes, André, Jean, Pierre, Philippe, Nathanaël, sont devenus donc des disciples de Jésus au début de son ministère, la première année. Puis sont retournés dans leurs activités. Ils étaient quasiment tous des pêcheurs de métier. Et durant la deuxième année du ministère de Jésus, le Seigneur va revenir vers eux. Et c'est là qu'il y aura cette pêche miraculeuse. Et le Seigneur va demander donc à Pierre de jeter son filet et il va tirer beaucoup de poissons. Et le Seigneur dit, je ferai de toi les pêcheurs d'hommes. Et c'est là que le Seigneur va appeler Pierre, Jacques, Jean, le fils de Zébédée, André, pour qu'il soit là à plein temps avec lui. Et ils vont l'appeler d'autres, et notamment les 12 apôtres. Il va les appeler apôtres et il va les envoyer pour prêcher le royaume de Dieu. La troisième année, donc la dernière année du ministère de Jésus, le Seigneur va se retrouver avec eux. Et il va leur poser cette question. Qui dites-vous que je suis ? Et ça se trouve dans le texte de Luc chapitre 9, versets 18 à 27, qu'on va prendre ensemble. Vous voyez cette évolution. Après maintenant ces 3 ans, le Seigneur pose cette question à ses disciples. Et pour nous qui avons accepté Jésus dans notre vie depuis un certain temps, le Seigneur nous pose aussi cette question. Et vous, qui dites-vous que je suis ? Et ça, nous le lisons dans Luc chapitre 9. Nous lisons les versets 18 à 27. Et nous verrons là les exigences de Jésus pour ses disciples, ceux qui l'ont reconnu pour ce qu'il était, qui ont fait cette rencontre personnelle avec lui, voient ce que le Seigneur Jésus attend de nous. Luc 9, verset 18, il est dit: un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question: qui suis-je au dire des hommes? Ils répondirent: Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit: le Christ de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Puis il dit à tous: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Donc j'aimerais nous encourager, frères et sœurs, à être des disciples du Seigneur, des disciples dignes de notre Maître, nous rappelant déjà qui est Jésus, qui est notre Sauveur, qui est notre Seigneur. Et donc, c'est verset 18 à 21, le Seigneur, il est avec ses disciples, il leur pose cette question: qui suis-je au dire des hommes? À son époque, les hommes avaient des opinions très variées concernant Jésus. Certains disaient qu'il était un prophète comme Jean-Baptiste, un autre que ce serait Jean-Baptiste qui serait ressuscité. Même Hérode, tétrarque, qui a fait décapiter Jean, pensait que Jésus, voyant la popularité de Jésus, entendant parler de Jésus, qu'il dit: mais est-ce que c'est Jean-Baptiste que j'ai fait décapiter qui est ressuscité? D'autres disaient que c'était un homme de bien. Et pour d'autres encore, que Jésus est un homme qui égare la multitude. Et ça, on le lit dans Jean chapitre 7, verset 12. Et à cause de Jésus, il y avait division parmi la foule, car les uns disaient que c'était un prophète, d'autres le Christ. D'autres encore disaient que cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. Et d'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Et dirent encore à l'aveugle, dans Jean chapitre 9, versets 16 à 17, toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Et cet homme dit, c'est un prophète. Vous voyez, donc il y a toutes les opinions très variées concernant la personne de Jésus. Et si le Seigneur pose encore cette question aujourd'hui, qui suis-je au dire des hommes? C'est exactement la même chose. Lorsque vous analysez entre les différentes religions, certains disent, oui, Jésus est un prophète, mais ce n'est pas le Messie, nous l'attendons encore le Messie. Ils n'ont pas reconnu Jésus pour le Messie. D'autres disent, oui, c'est un grand prophète, mais c'est surtout pas le Fils de Dieu. C'est blasphème. D'autres encore vont dire, Jésus, oui, c'est le Fils de Dieu, mais c'est surtout le Fils de Marie. Et puis Marie, Jésus, il est tout petit, c'est Marie qui est mère de Dieu. Et donc, vous voyez, il y a des opinions très diverses sur la personne de Jésus, mais c'est un peu ce qui se disait déjà même en son époque. Et vous, dit le Seigneur Jésus, qui dites-vous que je suis? Et donc Pierre va dire, le Christ de Dieu. Le Christ de Dieu. Et le Seigneur va leur dire de ne pas le dire parce que ce n'était pas encore son heure. Parce que en cela, la réponse de Pierre doit nous rappeler que nous ne devons pas oublier qui est Jésus pour nous et qui est Jésus tout court. Ne pas oublier que Jésus, il est le Christ de Dieu. C'est lui le Fils de Dieu et qu'il est notre Sauveur, notre Seigneur. Et ne pas oublier qu'il est Dieu et que nous, lorsque nous nous approchons de lui, ne pas oublier qu'il est le Christ de Dieu. On suit Jésus, on est disciple de Jésus, pas parce qu'on faisait certains qui le suivaient, parce qu'il pouvait multiplier les pains. Il y a des gens qui suivent Jésus parce qu'on leur dit qu'ils auront à manger. Ils suivent Jésus, entre guillemets, parce qu'on leur dit qu'ils auront beaucoup plus de prospérité. Certains suivent Jésus parce que, voilà, ils se font toutes sortes d'idées sur Jésus. Et l'image qu'ils ont de Jésus, ce n'est pas juste, il est le Christ de Dieu. Et chacun suit Jésus à sa manière. Mais il ne faut pas que nous oublions que si nous suivons Jésus, c'est tout simplement parce qu'il est le Christ de Dieu. Celui qui est venu, celui qui a donné sa vie pour nous. Et donc, il est bon que nous nous rappelions tout simplement ça. C'est pour cela que nous le suivons. C'est pour cela que nous sommes ses disciples. Et dans Matthieu chapitre 16, donc Matthieu rajoute ceci à la réponse de Pierre. Il donne plus de précision. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et après, le Seigneur va lui dire, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et lisons ensemble ce passage de 1 Jean, chapitre 5. Donc si voilà, nous suivons Jésus et nous croyons qu'il est le Christ de Dieu, voilà quels sont les bénéfices pour nous et quelles sont les bénédictions que nous avons et quelle doit être notre manière de faire, notre manière de vivre. Dans 1 Jean chapitre 5, il dit « Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu ». Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Après, verset 10, il dit, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Jésus est le Christ. L'autre chose qu'il est bon que nous nous rappelions, frères et sœurs, c'est le prix que Jésus-Christ a payé pour nous. Il a payé à notre place. Et le Seigneur ajoute au verset 22, « Il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. » Donc pour que nous puissions avoir la vie éternelle, nous qui croyons en lui, il a fallu donc que notre Seigneur Jésus paie le prix de notre rachat. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cet agneau qui sera sacrifié. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Pierre dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté, qu'il soit mis à mort, mais aussi qu'il ressuscite. C'était nécessaire, c'était indispensable pour que ceux qui le suivent puissent avoir la vie éternelle. Et donc le Seigneur nous a laissé ce mémorial pour que nous nous souvenions de ce qu'il a enduré pour nous. Et en tant que disciples de Jésus, constamment, nous devons avoir cela en tête, le prix payé par notre Seigneur à cause de nos péchés. Ce qui implique que nous devons dire non au péché. Nous devons rejeter le péché, ne pas vivre dans le péché, à cause du prix payé par Christ à notre place. Et donc, nous avons déjà lu tout à l'heure, lorsque nous avons pris la scène, ce texte de Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 26, parce que l'apôtre Paul a rappelé à ces chrétiens de Corinthe qui prenaient à la légère ces symboles. Il leur a dit, non, il faut vous rappeler du prix payé pour vous, ce que Christ a enduré à cause de vous. Donc ça, il ne faut pas le prendre à la légère. Donc je ne vais pas relire le passage que nous avons lu dans Luc, dans 1 Corinthiens chapitre 11. Et le troisième point que j'aimerais voir avec vous, c'est que nous, en tant que disciples de Jésus, pour avoir une vie qui soit digne de notre maître, nous rappeler quelles sont les exigences de notre maître pour nous, ses disciples. Et c'est ce qu'il dit au verset 23 à 27. Puis il dit à tous, donc là il va s'adresser non seulement aux disciples, mais à toute la foule qui l'écoutait aussi, pour leur dire, voilà, si vous voulez venir après moi, si vous voulez être mes disciples, faites attention. Voilà mes conditions. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Voilà les conditions du Seigneur. Renoncer à soi-même. Arrêter d'avoir une vie centrée sur soi-même, où on ne pense qu'à soi, mais on vit non pour nous-mêmes, pour celui qui a donné sa vie pour nous. Le renoncement à soi. C'est rejeter notre vie centrée sur nous-mêmes. Reconnaître la seigneurie de Jésus-Christ dans tous les domaines de notre existence, pour mettre Christ au centre de notre vie. C'est Christ qui est au centre de notre vie et ce n'est plus nous-mêmes. On ne fait plus les choses égoïstement, on ne fait plus les choses pour soi-même, mais on vit pour Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ au centre. Et le Seigneur Jésus, dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, l'apôtre Paul dit, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Jésus-Christ a renoncé à lui-même en s'humiliant, en venant sur cette terre, en devenant semblable aux hommes. C'est ce qu'il dit dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. » Le renoncement. Jésus-Christ a renoncé à tout ce qu'il avait pour venir et s'humilier, pour pouvoir nous sauver. On peut lire aussi l'exemple de l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 3, versets 4 à 8. Il dit « Moi aussi cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, il dit, à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. » J'ai renoncé à tout. Si quelqu'un veut venir à moi, après moi, qu'il renonce à lui-même. Et donc, l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 à 15, « Nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Est-ce que c'est comme ça que nous vivons? Est-ce que nous recherchons avant tout la gloire de Dieu dans nos vies? Ou est-ce que nous vivons une vie centrée sur nous-mêmes? L'autre chose, il est dit de se charger de sa croix. Et se charger de sa croix, c'est là aussi mettre Christ au centre et manifester cette volonté d'obéir à la parole du Seigneur, de servir notre prochain et d'accepter aussi la part de souffrance qui est liée. Vous savez, lorsque Jésus dit à ses disciples de se charger de sa croix, les disciples ont très bien compris ce que ça voulait dire. Puisque pour eux, ils voyaient des personnes qui étaient crucifiées, porter leur croix et après être crucifiés. Et ils vont voir leur Seigneur porter sa croix pour aller et être crucifiés. Donc c'était littéralement pour eux, ils ont très bien compris que se charger de sa croix, c'est accepter cette part de souffrance. C'est être prêt à aller jusqu'au bout. Il y a donc cette volonté d'obéir. Et le Seigneur Jésus, s'est chargé de sa croix parce qu'il a montré cette volonté d'obéir au Père. Il est dit se rendant obéissant dans Philippiens chapitre 2. Cette volonté de servir son prochain, puisqu'il a pris cette forme de serviteur, mais c'est aussi cette volonté d'accepter la part de souffrance, puisqu'il est allé jusqu'à la mort même de la croix. Se charger de sa croix. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, l'apôtre Paul montre aussi comment il s'est chargé de sa croix en manifestant cette volonté d'obéir, cette volonté de servir, cette volonté d'accepter sa souffrance. Lorsqu'il dit « Si j'annonce l'évangile, la nécessité m'en est imposée. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. » Cette volonté d'obéir à son Seigneur malgré lui. Cette volonté de servir son prochain. Il dit, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Mais aussi cette volonté d'accepter la part de souffrance liée à ce que le Seigneur lui demandait. Toujours dans Corinthiens 9, il dit, n'avons-nous pas le droit? N'avons-nous pas le droit d'avoir une épouse? N'avons-nous pas le droit de ne point travailler? C'est accepter cette part de souffrance. N'avons-nous pas le droit? Nous souffrons tout, il dit, afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile. Nous souffrons tout à cause de l'évangile. Et donc, le Seigneur, l'apôtre Paul nous dit, voilà, en tant que disciple, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Faites tout à cause de l'Évangile. Alors, frères et sœurs, chers amis, pouvez-vous dire, oui, je suis un disciple de Jésus. Vous savez, c'est dans l'église d'Antioche, il est dit, dans Actes 11, que pour la première fois, les disciples sont appelés chrétiens. Donc tout le monde se dit chrétien. Mais maintenant, la question, c'est l'inverse. Vous vous dites chrétien, mais êtes-vous un disciple de Jésus? Croyez-vous que Jésus est le Fils du Dieu vivant, qu'il a donné sa vie sur la croix à cause de vos péchés, et qu'en croyant en lui, vous avez la vie éternelle? Là, c'est la question que ces questions que vous devez vous poser. Si vous ne pouvez pas l'affirmer, alors aujourd'hui, vous pouvez devenir un disciple de Jésus en mettant votre confiance en lui. Alors, comme Pierre l'a dit, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, dans Actes 3, verset 19. Pour nous qui disons être des disciples de Jésus, alors qui est Jésus pour vous? Est-il toujours votre sauveur et votre Seigneur? Est-il votre maître, celui qui veut vous enseigner? Donc, la question c'est, à quel moment nous mettons-nous à ses pieds s'il est notre maître? À quel moment nous mettons-nous à ses pieds pour écouter ses paroles, comme Marie le faisait? Est-ce que, puisqu'il est notre maître, nous aimons ouvrir sa parole et lire, savoir, entendre ce qu'il a à nous dire? Ou sommes-nous, comme Marthe, occupés à faire plein de choses, voulant bien faire, mais passant à côté de l'essentiel? Et le Seigneur, il dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part et qui ne lui sera point ôtée. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais juste terminer avec ce passage d'Ésaïe que j'avais prévu de lire avec vous. Ésaïe chapitre 50. Alors, Ésaïe parle du serviteur, le serviteur de l'Éternel, c'est la personne de Jésus. Et il dit au verset 4, Ésaïe 50, verset 4, « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qui s'avance vers moi? Voici, le Seigneur l'Éternel me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement, la teigne les dévorera. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qui se confie dans le nom de l'Éternel et qui s'appuie sur son Dieu. Amen.